Vous écoutez
RMC.
RMC.
Non, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour vous. Ça vous donne du pain à moudre là-dedans.
Effectivement, si vous arrivez cric-crac, là, vous avez plus de chances de louper votre avion.
On ne va pas faire les has-beens.
Je pense que dans le football, il y a deux situations. C'est-à-dire quand vous avez le ballon ou quand vous l'avez.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ?
RMC, l'after-foot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC dans l'After Foot. On est ensemble jusqu'à minuit en direct au programme. L'invité, c'est le coach d'Angers, Stéphane Gilly. Et dans l'After Foot ce soir, on parlera également du LOSC qui voit certaines de ses pépites peut-être partir. Boadi, Fernandez Pardo pourrait quitter le Nord. On va parler également de l'instabilité concernant les gardiens de Ligue 1. Il pourrait y avoir du changement. Et puis nous sommes à J-1 d'un match ô combien important pour l'avenir européen des Lyonnais. Vous le savez, Lyon qui a été battu à l'aller face au Sparta Prague et qui doit absolument inverser cette tendance très négative. Fonseca y croit en tout cas. Et puis nous sommes à J-2 également de la finale de la Supercoupe entre le PSG et Aston Villa. Et puis toutes les informations du jour avec notamment le Mercato. Ils sont là en pleine forme. Salut Elton Mokolo, tout va bien ?
Salut Karine, salut à tous.
Tu n'es pas parti en vacances. Ton acolyte, lui, est parti en vacances, mais ça a été très court. À peine 9 jours.
On a pas profité.
C'est le retour déjà de Maxime Chanot. Tout va bien ?
Exactement. Salut Karine, salut Elton, salut à tous. Oui, tout va très très bien. Merci. Je suis très heureux d'être de retour, Karine.
Mais 9 jours, c'est moins que les vacances des footballeurs.
Oui, mais en même temps, je cours un peu moins en même temps. J'ai besoin de moins de repos, non ?
9 jours, ça te suffit.
Mais non, j'aurais préféré avoir plus, mais je suis très heureux d'être là parmi vous.
Tu as un petit teint allé.
Ah oui, bah, c'est la place. En règle générale, il fait beau en Corse. Il a fait très chaud, très beau.
Oui, j'ai l'impression qu'il fait très chaud de partout et donc tu as eu beau temps en Corse. Tu as profité dans le nord de la Corse.
C'est ça, du côté de la Balagne. J'ai bien profité, ça m'a fait du bien et j'étais très heureux de rentrer voir la famille. Et justement, profiter un peu de la plage parce que j'ai pas eu l'occasion de trop le faire pendant ma carrière de footballeur. Donc voilà, c'est le point positif d'avoir pris ma retraite.
Donc là, tu as pu barboter tranquillement.
Exactement.
En pensant à rien.
En pensant à rien, en mangeant. Ouais, on s'est compris. Sans être obligé de courir.
C'était quoi le plat, le must ?
Le must, c'est-à-dire le meilleur.
Le meilleur.
J'ai beaucoup mangé de pizza, j'en suis pas fier.
Mais enfin, je le prononce très mal, c'est pas grave, mais bon, t'as compris.
Je te l'ai dit, Karine, je suis plus footballeur, Elton, je peux profiter.
Mais non, mais ils mangent des spécialités corse.
Non, mais tu peux manger des pizzas avec la spécialité corse dessus, mais c'est vrai que j'ai tendance à manger très simple, et une bonne pizza, ça m'a suffi. Je mange une fois par jour, moi, Karine.
Non, mais d'accord. Mais enfin, quand tu vois la charcuterie corse qui est absolument divine, les brochus, là, moi, je peux manger matin, midi et soir. C'est merveilleux.
J'étais sur les pizzas, en tout cas.
Et pas de brochu.
Pas trop, non.
Tu connais ?
Pas du tout.
C'est
pas
merveilleux.
Du tout,
ouais. C'est des espèces de beignets fourrés avec du fromage.
N'en dis pas plus, j'y vais tout de suite.
C'est exceptionnel. C'est-à-dire que moi, je les vois en photo, je lèche l'écran déjà. C'est magnifique. Ah ben oui, et j'ai trouvé une adresse à Paris d'ailleurs. C'est exceptionnel.
Essayez d'en parler.
Où ça alors ?
Comment ?
Où ça ?
Dans le 15e, je te la donnerai.
Ah ouais,
et ce sont des vrais Corses qui font des spécialités locales et notamment les brochus, c'est magnifique. D'ailleurs, je crois que Walid est en Corse, non ?
Non, il n'est pas en Corse.
Ah bon, parce qu'il m'avait demandé des adresses en Corse, alors il n'est pas
en
Corse.
Non, il est en Espagne.
En vacances, ouais. Ah. On l'a vu.
Il m'avait dit, est-ce que tu as des endroits à me conseiller vers Portovec et Bonifacio ? Je lui ai donné les hôtels que je connaissais, voilà. Finalement, il a opté pour une autre destination. Dans quelques instants, nous serons avec Stéphane Gilly. Pour l'instant, on a un petit problème de connexion avec l'entraîneur du SCO d'Angers. On parlera évidemment de ce nouveau challenge, lui qui était l'entraîneur du Paris FC et qui a été limogé en février dernier, qui se retrouve à la tête d'un club qui a fait des belles choses avec du jeu qui est parti, lui, à Lorient. Je vous propose peut-être de commencer avec les infos du jour, dans ce cas-là. Et on attend évidemment Stéphane Gilly dans quelques instants. Une très mauvaise nouvelle, messieurs, on pense fort à lui, c'est évidemment Laurent Abergel. Hier, on l'avait vu sortir en cours de match face à Cagliari en amical. Rupture du ligament croisé antérieur pour le joueur qui venait d'arriver de Lorient. C'est un énorme coup dur pour le joueur et aussi pour Nice parce qu'il devait avoir un rôle central.
C'est d'autant plus dommage qu'on en avait parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines. On était ensemble avec Maxime Tillet. Et à l'époque, on avait parlé d'un recrutement qu'on aimait bien avec Gauthier Hyde et donc Laurent Bergel, davantage tourné sur l'expérience, sur des joueurs prêts à l'emploi en ce qui concerne la Ligue 1. Et là, il se trouve, c'est une grave blessure qui va l'impacter énormément. Donc, déjà, force à lui. Mais c'est vrai que c'est handicapant pour Nice au moment d'attaquer la saison 2026-2027.
Il avait passé 13 ans à Lorient. Lorient et il avait manqué seulement 22 matchs. C'était une valeur sûre, le joueur qui n'est jamais blessé, qui ne manque jamais de matchs. Et là, cette rupture du ligament croisé antérieur terrible arrivée lors d'un match amical.
Ouais, énormément de régularité hein, pour Abergel et puis surtout un coup dur pour Pantaloni, hein, l'entraîneur niçois, hein, parce qu'on sait que c'est lui qui l'a ramené aussi de Lorient. C'était son capitaine.
Son relais.
Son relais, exactement. Donc de le voir blessé, puis sur une blessure qui est quand même assez grave, à un âge où il me semble qu'il a 33 ans, c'est toujours très compliqué de revenir quand t'es un peu jeune des ligaments croisés. C'est vrai qu'à son âge, ça risque d'être un peu problématique. Voilà, on lui souhaite bon courage parce qu'on sait que c'est un très bon joueur, une très belle personne et évidemment, ça va être un impact très négatif pour l'OGC Nice de le perdre en effet pour cette saison.
Courage donc pour Laurent Abergel. Une information concernant Nice, aussi une bonne nouvelle, ils ont réussi à sortir Kevin Carlos. On rappelle qu'il avait absolument pas convaincu les dirigeants et les supporters niçois, et seulement deux buts en 24 apparitions. Et bien donc, il y a bien quelqu'un qui en a voulu, ça c'est beau, ouais. Il est parti donc à Cagliari justement, contre qui il jouait hier, et on parle d'une option d'achat de 3,5 millions d'euros.
Non mais clairement aujourd'hui le pari de Cagliari, c'est d'avoir davantage de Kevin Carlos de balle plutôt que de Nice. Il faut quand même contextualiser, il arrive dans une période très compliquée pour Nice et forcément il passe complètement à côté, mais maintenant voilà, c'est une bonne chose de fait de pouvoir le sortir et de se concentrer sur l'arrivée d'un attaquant, parce que là pour le coup, on en a parlé encore une fois il y a quelques jours, mais l'arrivée d'un attaquant pour garnir les rangs niçois ne sera pas de trop.
La très bonne nouvelle, messieurs, c'est que notre invité est avec nous. On rappelle, il y a eu une valse des entraîneurs en Ligue 1. 12 changements de coach sur les 16 clubs qui étaient déjà présents en Ligue 1 la saison passée. Donc j'enlève le FC Metz et le FC Nantes qui ont été relégués. 12 changements sur 16 clubs et notamment un changement du côté d'Angers avec Stéphane Gilly qui a été nommé en remplacement de Dujeu qui est parti à Lorient. On est ravis de vous avoir dans l'After Foot. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Stéphane, salut, vous avez signé pour 2 ans au FC Angers. Parlez-nous de cette préparation qui s'est plutôt bien préparée. On a vu que vous aviez déjà fait 4 matchs amicaux avec 3 victoires. Vous étiez en stage à Deauville. Donnez-nous des nouvelles de cette préparation alors qu'on est à un peu moins de 2 semaines de la reprise.
Ben, comme vous l'avez dit, ça s'est bien passé. Après, comme tout coach, quand on arrive dans un nouvel environnement, un nouveau club, on découvre les structures, on découvre le groupe, on découvre les gens qui composent ce club. Donc on prend nos marques. Après, j'ai eu la chance d'avoir des membres du staff qui sont restés, que ce soit Greg Maliki, ton frère et Jean-Jacques Batoum. Ça nous a facilité la tâche aussi. Mais je suis arrivé avec un groupe très réceptif, qui travaille. Vraiment, il y a une éthique de travail et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est propre à l'Angesco, cette valeur de solidarité, de travail. Et ben, tout simplement, on arrive, on met en place la vie de groupe un peu, ce qu'on attend d'une vie de groupe. Et puis après, surtout, le plus important, c'est le projet de jeu, avec les principes de jeu que l'on veut mettre en place. Et puis après, on met ça en pratique sur le terrain. Et c'est vrai que ce stage à Deauville nous a permis aussi de travailler un peu plus, de se découvrir. Mais sur les matchs amicaux et sur ce que je vois à l'entraînement, je suis très très satisfait de l'implication des joueurs.
Oui, le SCO reste sur 2 très belles saisons, notamment une 13e place l'an passé. On sait que vous êtes un entraîneur qui aime le beau jeu. Vous l'avez encore répété lors de votre présentation au SCO en disant, voilà, moi je suis persuadé que les résultats arrivent quand on joue bien. C'est comme ça qu'il y a une recette. J'imagine que pour les joueurs que vous avez, c'est plutôt un régal d'être entraîné par Stéphane Gilly, sachant que vous, c'est le jeu avant tout et on bétonne le moins possible.
Oui, c'est ma philosophie, c'est mes principes, mais après il faut toujours s'adapter dans le club dans lequel on arrive, dans nos effectifs aussi. Mais aujourd'hui, j'ai un effectif de qualité avec des joueurs qui sont en capacité de mettre en place le projet de jeu que l'on veut. Dans le recrutement aussi, on a fait Branko van den Bomen, Anthony Bermond. Voilà, c'est des joueurs, Anto Lopez, Simba Colli, Amin El Ouazzani et les joueurs qui étaient là. Donc c'est ce qu'on a travaillé depuis que je suis arrivé, de mettre en place, d'être en capacité de jouer sous pression, de ressortir, d'attaquer peut-être un peu plus la profondeur ou les espaces qui s'offrent à nous. Mais les joueurs sont très très réceptifs et je vois que petit à petit, sur les matchs et même aux entraînements, les principes commencent à prendre forme. Après, ce qui est très important, c'est de donner, moi ce que je leur ai dit, des outils à tous les joueurs et d'être le moins lisible possible et être en capacité de lire l'adversaire. Donc on essaie de leur donner le maximum d'outils, de sortir à 3, à 4 et surtout voilà, de jouer et de prendre du plaisir. Mais après on sait que le plaisir il vient avec les résultats et c'est ce qui confirme le projet et ce que l'on met en place, mais il y a le projet collectif et après aussi ce que j'ai aimé au Paris FC, c'est le développement individuel des joueurs, la progression des joueurs, et si individuellement ils progressent, ben, collectivement on sera plus fort.
Salut coach, encore une fois félicitations pour votre nomination au SCO d'Angers. Je suis convaincu que ça va fonctionner, que ça va Merci. Vraiment être une histoire d'amour entre vous et le SCO Angers. Alors vous avez parlé évidemment des arrivées, alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'on connaît un petit peu la politique sportive et économique du SCO d'Angers, qui est l'un des plus petits budgets de Ligue 1, qui est donc obligé de vendre pour survivre entre guillemets. Il y avait ce départ de Sidiki Chérif qui a été quand même une perte importante pour le SCO Angers l'année dernière. Là aujourd'hui vous avez aussi l'arrêt de carrière de Pierrick Capel, qui est aussi un élément important en tout cas sous l'ère du jeu. Voilà, vous avez quand même eu des arrivées intéressantes, vous les avez dit un peu plus tôt, Vandenboumen, Anthony Lopez, qui sont des leaders. Je voulais vous parler de El Ouazzani, que j'ai connu du côté de Guingamp, qui a fait deux très belles saisons avant de partir du côté de Braga. Il a moins joué l'année dernière. Voilà, dans quel état de forme vous l'avez récupéré? Où est-ce que vous comptez le positionner? Plus peut-être sur un côté, on sait que c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer numéro 9, qui peut jouer aussi à côté justement de l'attaquant de pointe. Voilà, comment il est aujourd'hui? Est-ce que ça va être votre numéro 9 titulaire? Évidemment, on sait comment que ça se passe. Il y a aussi une histoire de forme et de performance. Voilà, comment il est aujourd'hui El Ouazzani, à l'aube du début de saison en Ligue 1 du côté du SCO d'Angers?
Déjà, la première chose, c'est quand on recrute un joueur, que ce soit avec Laurent Boissier ou le président, c'est ce qui est important par rapport à ce que vous avez dit, qu'on n'a pas le plus gros budget de Ligue 1, c'est la volonté de sentir la volonté du joueur de venir en lui présentant le projet. Et par exemple Amine, ça a été quelque chose où il était tout de suite convaincu par le projet de jeu, par le club. On a été transparent et c'est un joueur qui a, oui, à Guingamp, même moi, on l'avait affronté. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Il a fait une première saison à Braga où il a été performant. Après, il a été un peu blessé, il a un peu moins joué. Il est arrivé revanchard. Il a envie de prouver toutes les qualités qu'il a, parce que c'est un joueur qui a énormément de qualités. Après, moi, je pense plus l'utiliser en attaquant dans l'axe, pas sur un côté, mais après, comme tous, c'est la performance qui va faire. On a aussi Peter Prosper, on a Simba Colli, on a des jeunes, on a un petit Mama Diallo qui a 16 ans. Voilà, mais moi, dans l'utilisation, c'est un joueur qui est capable d'au jeu, qui est un buteur quand même, parce que c'est quelqu'un qui est très adroit devant le but, mais qui est capable aussi d'attaquer la profondeur, et dans le projet de jeu où on veut essayer de récupérer le ballon, c'est quelqu'un qui travaille énormément défensivement. Donc est-ce qu'il peut être à deux attaquants avec un numéro 10 ou tout seul? Après, c'est les performances qu'ils vont faire, et en fonction c'est ce que j'ai dit, on s'adapte aux joueurs. Aujourd'hui, j'ai des joueurs comme Maris Belkeba qui est blessé, Mouton. Donc il y a une structure, mais après c'est plus des positions, mais je ne vois pas l'utiliser sur un côté aujourd'hui.
Stéphane Gilly, l'entraîneur du SCO d'Angers et l'invité de l'Afterfoot, Elton.
Stéphane Gilly, quel regard portez-vous sur la préparation que vous avez effectuée? Vous restez notamment sur un match contre Lorient, il y a un match contre le Paris FC qui arrive. Et ma deuxième question, à quoi on peut s'attendre tactiquement d'Angers? Alors vous avez parlé d'un système qui pouvait être évolutif, mais on vous connaît avec bien évidemment le 4-4-2.
Oui, voilà. Ben, comme j'ai dit, c'est un peu aussi le profil des joueurs que j'ai. Aujourd'hui, j'ai deux joueurs qui sont Louis Mouton et Harris qui étaient blessés. Donc au milieu, je joue en 4-4-2, on peut jouer en 4-3-3, mais je le répète, c'est la structure de départ. Quand par exemple, on a joué en 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Après, c'est les positions qui font. Et concernant les matchs amicaux, le match du Mans, par exemple, on avait fait une grosse semaine à Deauville où la veille du match, on avait fait deux grosses séances et habitué les joueurs à jouer sous fatigue. Le match de Lorient, on avait un peu plus préparé pour en garder, comme on dit, un petit peu de jus. Et là, on a un beau match face à une très belle équipe du Paris FC à Copa où on va avoir un peu une petite répétition générale. Mais aujourd'hui, bien sûr que tout n'est pas parfait, on n'est pas prêt. Il y a encore des choses à améliorer et à travailler, mais depuis le début, comme j'ai dit précédemment, tout ce que on a voulu mettre en place progressivement, on commence à voir dans le jeu certains principes.
Stéphane, évidemment, au SCO d'Angers, il faut être inventif parce qu'il y a une réalité, c'est que le budget est extrêmement serré. Vous avez pu avoir 6 recrues cet été. Anthony Lopez qui remplace donc Kofi dans les buts. Van den Bomen qui était prêté là, qui s'est engagé pour 3 ans. Il y a les retours de prêt de Jim Alivina. Il y a le prêt d'Anthony Bermond et d'El Ouazani dont on vient de parler qui ont été enregistrés. Il y a aussi Simba Colli. Quel est le rôle d'Anthony Lopez qui arrive au SCO d'Angers, sachant que l'an dernier, Kofi a été tout simplement l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1.
Si ce n'est le meilleur.
Oui. Déjà, ça, dans toute, on est même pas au début du championnat et on voit qu'on a quasiment notre effectif s'il n'y a pas de départ. Donc ça veut déjà dire que le club, malgré, comme on dit, des moyens limités, travaille très bien. Que ça soit Laurent avec le président et on a travaillé. Même si aujourd'hui il y a des départs, on sait déjà par quels joueurs seront remplacés. Donc ça déjà c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le travail bien. Après le rôle d'Anthony Lopez, oui, il arrive derrière un des meilleurs gardiens de Ligue 1 la saison dernière. Mais je pense qu'à son âge, avec son expérience et son vécu, il va pas trembler là-dessus. C'est un compétiteur et je pense qu'au contraire ça va encore plus le motiver pour essayer de faire oublier Hervé, ce qui va pas être facile. Mais le connaissant et le voyant tous les jours à l'entraînement, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui arrive très tôt, qui travaille beaucoup et je suis sûr qu'il va nous faire une belle saison et qu'on parlera d'Anthony Lopez à la fin de la saison comme Hervé Kofi et qu'ils ont fait 2 très belles saisons, ces deux gardiens-là qui ont d'énormes qualités.
Mais surtout qu'Anthony Lopez avait été très très précieux du côté du FC Nantes, même ça s'est mal terminé, c'était peut-être le meilleur Nantais l'année dernière. J'espère sincèrement en tout cas que ça va être le cas aussi avec le SCO Angers. En tout cas, il va apporter son expérience qui risque d'être utile pour votre groupe. Moi, je voulais revenir, Stéphane, un peu plus, quelques mois en arrière. Je sais que c'est pas forcément des très bons souvenirs et par rapport à votre mise à l'écart du Paris FC, voilà, avec quelques mois maintenant de recul, on sait que vous avez fait du très très bon travail, notamment cette montée au Paris FC en Ligue 1. Je me souviens aussi évidemment de cette élimination contre du Paris Saint-Germain début janvier, me semble-t-il. Et puis un mois plus tard, après un match nul, me semble-t-il, un partout contre Toulouse. Vous êtes démis de votre fonction, voilà, avec du recul maintenant, comment vous voyez la chose? Est-ce que vous gardez évidemment des remords et ou en tout cas des regrets par rapport à cette fin d'aventure avec le Paris FC, vous qui avez été quand même très très précieux aujourd'hui dans l'évolution de ce club-là? Voilà, comment vous le sentez aujourd'hui et quel est votre avis justement par rapport à le fait que le Paris FC ait décidé de se séparer de vous?
Moi, comme je dis toujours, quand j'arrive dans un club, je vais travailler comme si j'allais rester 10 ans, mais je sais que ça peut s'arrêter demain. Comme vous l'avez dit, je suis fier de ce que j'ai fait au Paris FC. Maintenant, il y a des dirigeants, il y a des actionnaires qui ont décidé qu'il fallait sûrement changer. Et moi, je suis parti en très bon terme avec tout le monde. Je pense que, comme vous l'avez souligné, ce match de Coupe de France, c'était une de très belles choses. Mais peut-être qu'on s'est imaginé aller au bout. Après, il y a eu la claque contre Lens à domicile aussi qui n'a pas aidé. Mais il y avait quand même la CAN entre temps où on avait pas mal de 5 titulaires qui étaient pas là, Pierre Lesmelou qui était blessé et on a fait un très bon mercato d'hiver, mais avec des joueurs qui avaient pas trop joué, Coléocho, Coppola, Mounetzi. Moi ce que je retiens c'est que les dirigeants ils ont fait un choix et je le respecte et il y a aucun souci là-dessus, mais c'est que j'ai pas laissé un club à la dérive. Parce que derrière, on a vu qu'ils ont performé. Peut-être que Mounetzi, Coppola, que j'ai fait jouer en coupe à Lorient et tout ça, ça a permis qu'ils fassent une belle saison avec les autres joueurs aussi qui étaient performants parce que ça a beaucoup gagné. Donc non, moi, j'ai aucune amertume. Je suis content de ce que j'ai fait au Paris FC, bien sûr, que j'aurais aimé finir la saison. Mais déjà, presque 32 mois dans un club, c'est énorme avec le changement d'actionnaire, avec tout ce qui s'est passé. Donc moi, je suis très content de ce que j'ai fait et je leur souhaite le meilleur, à part les 2 matchs contre Angers, bien sûr. Je leur souhaite une belle saison.
C'est bonjour. D'autant que vous étiez dans les clous, parce que c'est vrai qu'on vous avait fixé comme objectif le maintien. Il me semblait que quand vous êtes remercié, vous avez 6 points d'avance sur les barragistes à 11 journées fin. Ouais. Donc c'est vrai que le bilan est plus qu'honorable. Donc c'est vrai que c'était un peu surprenant de la part du Paris FC de prendre cette décision. Voilà, maintenant c'est fait et on vous souhaite évidemment beaucoup de belles choses.
Moi, j'ai aucune amertume, comme je dis. Il y a des dirigeants, ils sont là pour prendre des décisions et voilà, moi, je respecte. Ça s'est fait dans des très bonnes conditions et aujourd'hui j'aurai plaisir à revoir les dirigeants. D'ailleurs, je suis en contact avec la majorité. Donc voilà, il y a zéro amertume.
Vous allez même les retrouver le samedi 15 août, parce qu'on rappelle, c'est le dernier match amical Angers face au Paris FC. Après, il y aura la reprise face à Lille. Stéphane,
pour
vous
la
nous
petite anecdote, je vous coupe, c'est marrant parce que ce match, c'est moi qui l'avais organisé avec Laurent, mais j'étais au Paris FC à l'époque. Donc, je ne pensais pas que j'allais jouer avec l'équipe adverse, mais c'est un petit clin d'œil. Donc,
ah, le clin d'œil est effectivement rigolo.
Déjà, on sait qu'il y a des matchs qui sont planifiés des mois à l'avance.
Ça travaille bien, ça anticipe effectivement.
Ben oui, mais surtout les derniers matchs, parce que comme on sait que Jambouin, on ne peut pas jouer. Comme l'an dernier, je voulais jouer dans un stade de Ligue 1, on avait joué à Nantes. Et là, comme il y avait Angers, donc c'est pour ça qu'on avait programmé très tôt.
Stéphane, on a l'impression que ce mariage est un peu le mariage parfait, parce que vous l'avez dit, vous avez besoin de temps déjà pour mettre en place vos idées, vous avez aussi envie de vous inscrire dans la durée, et c'est le cas au SCO d'Angers. On a évidemment le souvenir de Stéphane Moulin qui est resté très longtemps, c'est la même chose également pour Dujeu qui est resté longtemps. On a l'impression que ça s'est fait très facilement, votre adaptation à ce nouveau club. C'est un club familial, vous connaissiez également Laurent Boissier.
Oui, tout à fait. C'est comme j'ai dit, il y a un circuit court, il y a un président, un directeur général et un directeur sportif. Et voilà, ça va vite quand ça soit dans le recrutement. Sur certains joueurs, on fait des visios, on parle. Si c'est bon, le lendemain, le joueur, il peut être là. Donc voilà. Et puis il y a cette proximité. On sent des gens passionnés. Il y en a au Paris FC aussi. Mais il y a un peu moins de monde, c'est un peu plus familial, c'est plus restreint. Donc après on doit s'adapter dans le club où on est. Mais c'est vrai que je suis très heureux du choix que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant, après, je l'ai dit juste précédemment, je vais travailler ici comme si je vais rester 10 ans. Mais on connaît bien le foot, on est jugé sur les résultats. Mais j'ai très bon espoir par rapport à ce que je vois avec mon staff et les personnes qui nous entourent, et surtout les joueurs, l'investissement qu'ils mettent au quotidien.
Stéphane Gier, vous avez parlé d'un groupe qui a quand même gagné en qualité à travers ce mercato. Il y a un groupe qui a très peu bougé, à l'exception notamment de départ de joueurs emblématiques et qui n'ont pas été forcément prolongés. À quoi on peut s'attendre du SCO d'Angers sur cette troisième saison de suite en Ligue 1?
La première des choses, c'est pérenniser le club pour la troisième saison, le maintien. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est ce que j'ai présenté aux joueurs. Voilà, être beaucoup d'humilité, mais ça n'empêche pas d'être ambitieux. Donc, comme j'aurais dit, nous, on va jouer tous les matchs pour les gagner. On va pas tous les gagner, mais il faut être ambitieux. Et ça se travaille toute la semaine. Dans l'investissement au quotidien. Nous l'objectif c'est le maintien, mais aussi d'aller de faire mieux peut-être que la saison précédente, et puis ne rien s'interdire. Mais aujourd'hui, je vais pas faire de bois, c'est se maintenir. Voilà, ça c'est le premier objectif, mais d'être ambitieux par rapport au groupe que l'on a, et après on va voir le championnat comment il se déroule. Ce qui est important, c'est que l'équipe progresse, performe, et les résultats viendront avec. Je suis bien passé pour le savoir. Quand j'ai signé au Paris FC la première saison, sur les 10 premiers matchs, on avait fait 7 défaites et on a fini barragiste. Donc de temps en temps, ça met un peu de temps. On sait qu'il y aura des périodes difficiles, des périodes fastes, et garder toujours la même ligne de conduite et le même cap avec tout le club, les joueurs et tous les gens qui nous entourent.
Super coach. Une dernière question par rapport aussi au groupe actuellement. Alors on a parlé des joueurs qui sont arrivés, des joueurs qui sont partis. Est-ce qu'on doit s'attendre justement encore à des nouveaux joueurs en partant? C'est-à-dire, je sais qu'on a entendu Jacques Écomier potentiellement qui pourrait quitter le club. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que Jacques Écomier sera toujours joueur du SCO Angers pour la saison prochaine?
Jusqu'à ce soir, alors je vous parle, il est à l'Angesco, mais après on connaît le mercato, comme vous l'avez dit, c'est un joueur qui a une bonne de sortie. Donc voilà, après si le joueur, le club et les trois parties trouvent leur compte, on sait que c'est quelque chose que l'on m'avait annoncé. Donc voilà, après aujourd'hui je pense que c'est un joueur qui a des qualités. S'il reste avec nous, je suis très content. Maintenant, c'était dans ce que l'on avait parlé en début de saison, il va partir. On a déjà une ou deux pistes pour le remplacer. Donc,
notamment voilà. Kaloulou de Pau, il me semble, j'ai entendu, qui est un super joueur. Je ne sais pas si vous parlez de lui, mais.
C'est un super joueur. C'est vrai, je partage votre avis, mais on entend beaucoup de choses.
Voilà. Beaucoup de si, en effet.
Merci beaucoup Stéphane Gilly d'avoir été l'invité de l'After Foot. On vous souhaite évidemment beaucoup de réussite au SCO d'Angers, beaucoup de réussite dans ce nouveau challenge, vous qui avez signé pour 2 ans. Et en plus à Angers, on laisse du temps aux entraîneurs, parce que Saïd Chaban, on l'a vu par le passé, à chaque fois il laissait du temps à ses coachs pour travailler. Donc on vous souhaite le meilleur, on vous souhaite une très très belle saison.
Bonne
merci
saison.
Beaucoup.
Belle saison, coach.
Merci beaucoup, merci à vous et bonne soirée à vous tous.
Merci.
Merci beaucoup Stéphane Gilly, donc le nouvel entraîneur d'Angers qui avait signé au mois de juin. Ça s'est fait très rapidement et on rappelle le programme. Donc le prochain match amical, c'est le 15 août face à son ancien club, le Paris FC, et la reprise, ça sera le dimanche 23 août face à Lille, première journée de Ligue 1. On leur souhaite le meilleur. L'an dernier, ils avaient fait une très belle saison en étant troisième avec du jeu qui avait fait de l'excellent travail.
Et ils ont quand même passé un été qui est pour moi relativement ambitieux, parce que Maxime l'a évoqué avec un mercato, faut quand même préciser, si on parle d'Anthony Lopez, Van der Boomen qui a résilié son contrat avec l'Ajax, El Ouazzani qui était demi-finaliste d'Europa League, c'est quand même un mercato qui, dans un contexte économique difficile, est quand même très intéressant. Et faut pas oublier que entre l'été 2025 et le mercato hivernal, ils avaient énormément vendu, ce qui leur a amené à avoir une certaine tranquillité pour attaquer cette pré-saison.
Et d'ailleurs, ils ont racheté uniquement un joueur, il me semble, c'est Simba Colli,
oui, qui arrive, est acheté en Belgique.
De Molenbeek, et détail qui est très important par rapport à DNCG, ils n'ont pas été impactés. Ils n'ont pas été impactés négativement, ce qui n'était pas forcément le cas l'été précédent.
L'an dernier, ils n'avaient pas pu recruter, ils ne pouvaient pas dépenser d'argent parce qu'effectivement, il y avait cette réalité économique.
Ça travaille très bien, Angers. Hein. Donc Simba Colli qui arrive pour 250 000 euros, c'est pas grand chose. Alors c'est un peu surprenant comme choix, parce que c'est un joueur qui arrive de D2 belge, qui a fait seulement une très belle saison entre guillemets, parce que je crois qu'il a marqué une quinzaine de buts, 14 buts exactement du côté de Molenbeek. Voilà, voir ce que ça va donner. C'est un centrafricain, il est un peu dans le profil de Sidiki Chérif.
Voilà. Et à côté de ça, t'as ton mercato interne, tel que je l'appelle, comme Zbaï qui est là, Belkebla qui a prolongé, ce qui est quand même un engagement qui est très intéressant. Donc il y a des choses à mettre en avant.
Ouais, avec surtout une défense centrale qui fonctionne bien aussi, Lefort et Camara, qui avait très très bien fonctionné l'année dernière, avec Jordan Lefort qui a raté quasiment aucun match, je crois. Il est sur une longévité,
une régularité incroyable,
qui est quand même assez incroyable. Et en tout cas, j'aime beaucoup Stéphane Gilly. J'aime beaucoup son humilité. J'aime beaucoup le personnage, l'entraîneur évidemment. J'avais été très déçu son éviction l'année dernière au Paris FC. Je trouvais que c'était un peu injuste. Alors, on va voir ce que ça va donner. Après, c'est deux projets complètement différents. Hein. T'es sur un projet Paris FC ou est-ce que t'as des actionnaires qui commencent à mettre de l'argent avec un effectif qui est quand même, je dirais pas différent de.
Et là, on est sur un projet beaucoup plus dimensionné pour lui.
Ouais, donc je pense que ça va fonctionner. En tout cas, on lui souhaite.
Une nouvelle histoire donc entre Stéphane Gilly et le SCO d'Angers qui va débuter officiellement face à Lille. Ça sera à Raymond Coppa, donc devant le public en juin. Dans quelques instants, messieurs, on va parler évidemment de Lyon. Lyon qui est déjà sur le grill. Lyon qui joue une partie de sa saison demain, en tout cas son avenir européen. Ça sera face au Sparta Prague. On rappelle qu'ils ont perdu la manche aller la semaine dernière 2-1. On est ensemble sur RMC jusqu'à minuit. Supporters lyonnais, on vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC en direct avec Elton Mokolo, avec Maxime Chano, avec vous au 32-16, mais aussi sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Il y a quelques minutes, on avait le grand plaisir d'être avec Stéphane Gilly, le nouvel entraîneur d'Angers. Vous pouvez retrouver évidemment son interview sur rmcsport.fr. FR, lui, qui est très heureux de ce nouveau challenge dans un club familial. On va continuer de parler de la Ligue 1 et de l'actualité. On va parler du LOSC, messieurs. Pourquoi ? Parce que le LOSC a fait une belle saison. Retour en Ligue des Champions. Il y a eu un changement de coach, vous le savez. Bruno Genesio a décidé de partir. Nous avons maintenant le fils de Carlo Ancelotti sur le banc. Mais il y a aussi un problème, c'est que Lille a des bons joueurs et donc Lille est attaquée. Boadi est pisté par Manchester City. Fernandes Pardo est également pisté. Ces deux joueurs sont sur le départ. Est-ce que Lille manque d'ambition? Parce que tu es un petit peu colère, je crois, Elton, concernant Lille qui retrouve la Ligue des Champions et qui pourrait perdre une nouvelle fois des éléments majeurs.
Non, pour moi, Lille est à un tournant par rapport à la saison 2026-2027 sur sa capacité à construire une équipe compétitive, que ce soit évidemment en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions, parce que je pense qu'ils peuvent rééditer la performance d'un huitième de finale comme en 2025. Mais là où ça va être un tournant, c'est sur sa capacité à valoriser et à garder les joueurs. Alors il se trouve que Boadi, il y a une offre qui est irrefusable quasiment avec Manchester City. Et par contre, là je fais un distinguo avec Fernandes Pardo qui a encore pour moi à offrir du côté du LOSC dans une équipe qui va être en Ligue des Champions.
c'est l'Atlético de Madrid qui le
pèse. L'Atlético de Madrid, dans une équipe qui, encore une fois, est jeune, mais qui est amenée à grandir. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ouais, c'est deux dossiers. Il y en a un qui me paraît être acté avec Boadi. Par contre, le deuxième dossier, Lille doit faire valoir notamment sa force financière, notamment parce que c'est l'exemple à suivre du côté de la Ligue 1 dans un contexte économique qui est très compliqué, et aussi son projet sportif, parce que c'est un vrai bon projet sportif qui a été valorisé par ses troisième place la saison dernière dans un contexte très compliqué où l'été d'avant ça avait vendu énormément de joueurs clés, ça les a pas empêchés de terminer à ses troisième place. Et moi je me dis que j'ai envie de voir par exemple un Fernandez Pardo continuer avec le LOSC, et donc c'est pour ça que Lille doit être très ferme sur ce dossier.
Après, quand tu t'appelles le LOSC et que tu évolues en Ligue 1, tu sais très bien que tu as un gros problème, hein, et c'est l'aspect économique. Tu es obligé de vendre pour survivre, même si le LOSC est une grosse écurie en Ligue 1, mais ils n'ont pas vraiment le choix quand tu as une offre qui arrive de Boadi. Pour Boadi, c'est compliqué de dire non. Alors après, on verra exactement quelle est la somme proposée par le club anglais, mais je peux comprendre. C'est vrai que ça peut être frustrant pour les supporters, ça peut être frustrant un petit peu pour les suiveurs de notre Ligue 1, mais tu n'as pas le choix avec la Coupe du Monde qu'a fait Boadi, et notamment ce premier match contre le Brésil. Je pense que tout son talent a éclaté aux yeux de la planète football.
Pour le gros club, en
exactement
fait.
Je pense que c'est ce qui lui manquait justement un petit peu, hein, ce rayonnement à l'international. C'est vrai que c'est frustrant. Après, pour Fernandez Pardo, c'est un peu différent parce que t'as des options qui sont quand même un petit peu différentes, dans la mesure où c'est vrai qu'à l'époque Genesio l'avait repositionné en tant que numéro 9. Est-ce que ça va être le cas avec Ancelotti? Est-ce qu'il va le faire jouer sur le côté? Est-ce qu'il va le faire jouer en tant qu'attaquant de pointe, sachant qu'Olivier Giroud a re-signé encore une saison supplémentaire? Alors c'est deux profils différents, mais en tout cas t'as un backup actuellement. Je sais pas ce que ça donne par rapport à Mohamed Bayo, hein, qui est revenu de Turquie, où est-ce que ça a bien fonctionné aussi. Est-ce qu'il va rester au LOSC? Est-ce qu'il va partir? Ça, c'est une autre question. Mais clairement, je pense que Fernandez Pardo, il a tout à gagner à rester au LOSC. C'est encore un très jeune joueur qui est en plein développement. Il a fait le choix de rejoindre en tout cas la Belgique en équipe nationale, et je pense que ça va justement lui donner une légitimité supplémentaire pour, dans les prochaines années, avoir un gros transfert. Voilà, c'est la réalité du football en France, en Ligue 1. Quand tu as un club comme le LOSC, t'as pas le choix, t'es obligé de vendre. Alors, est-ce que tu vendrais les deux si tu t'appelles Olivier Létang? Si tu t'appelles Olivier Létang, est-ce que tu vends tes deux pépites? Je suis pas sûr, mais je serais pas surpris de voir qu'il y a un des deux qui part d'ici la fin du mercato. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le manque d'expérience. On a parlé d'Olivier Giroud qui a signé un an supplémentaire, mais tu perds quand même Bemba, tu perds Mandy, tu perds Thomas Meunier. Voilà, c'est quand même de l'expérience, et tu sais que t'en as besoin, surtout pour le nouveau entraîneur qui connaît pas forcément la Ligue 1. On sait qu'il était du côté du Paris Saint-Germain, mais en tant qu'assistant. Là, voilà, c'est une première expérience pour lui en tant que numéro 1. Un nouvel entraîneur, tu perds trois joueurs d'expérience importants, et en plus de ça, tu perds une ou deux pépites. Ça risque d'être compliqué pour le LOSC, même si le mercato est encore lourd. Attention, on parle des transferts sortants. Si jamais, j'imagine, Boadi devait partir pour une certaine somme, j'imagine assez aisément que le LOSC recruterait pour compenser un peu son départ.
Mais après, avant de parler d'expérience, moi je te parlerai de mercato qualitatif, de recrues qualitatives, celles qui vont aider justement le LOSC à revenir en Ligue des Champions, parce que c'est ça l'objectif. Et donc par rapport à ça, alors le dossier du milieu terrain, oui, je peux comprendre avec le départ de Boadi, mais par contre le secteur offensif, si Fernandez Pardo est amené à partir dans un contexte où t'as Egamen qui est pas encore revenu, Olivier Giroud qui rempile pour une saison, il faudra aller sur le marché des transferts. Mais est-ce que t'as la garantie tu t'appelles le LOSC de tomber sur le joueur adéquat pour te faire passer un step, notamment sur le secteur offensif, ou passer un cap pour
Si tu vends Boadi pour 80 bars, je pense que tu auras l'opportunité de pouvoir recruter un joueur qui te permet derrière de pouvoir compenser de 1 le départ de Boadi, et de 2 le départ de Fernandez Pardo s'il devait être vendu à l'Atlético Madrid. Mais c'est vrai que tu as la blessure d'Igaman, il s'est blessé de mémoire en janvier dernier. Donc
janvier, finale de Cannes.
Ouais, ouais. Donc je pense qu'il sera de retour aux alentours de septembre-octobre. Alors
après, il faut du temps.
Évidemment, ouais, après, il faut du temps. Quelle forme physique, c'est clair. Mais oui, il reviendra sûrement en tout cas à début de l'année prochaine. Voilà, moi j'ai confiance en Olivier Létang. Hein, comme tu l'as dit, il a toujours fait des coups assez intelligents sur le marché des transferts. Ça serait évidemment des grosses pertes pour le LOSC, mais je le répète encore une fois, c'est la réalité d'un club de Ligue 1. T'as pas le choix quand t'as des offres comme celle-ci qui arrivent, même par respect finalement pour le gamin, quand t'as Manchester City qui arrive, tu t'appelles Boadi, tu dois y aller, tu dois le laisser partir. Mais c'est vrai que voilà, c'est la réalité du foot actuel, les gars.
Mais il y a quand même de la frustration, parce que l'an dernier, Lille a réalisé quand même une saison miraculeuse par rapport au départ qui était entériné. On rappelle que Bruno Genesio, quand il allait débuter sa deuxième saison à Lille, il était très inquiet parce qu'il avait perdu un joueur par ligne, un joueur majeur.
Il avait perdu Chevalier, Diakité, Zegrova, pour ne citer que Angel Gomez.
et Jonathan David devant. Il avait été décimé. Ils arrivent à faire une très bonne saison parce qu'ils ont bien bossé et parce que les autres ont fait aussi n'importe quoi, comme Marseille, comme Monaco, qui ont tenu leur rang.
Surtout.
Il y a les deux, parce que voilà, pour arriver.
On va dire qu'ils finissent mieux la deuxième partie de saison.
Surtout quand tu vois leur janvier, leur mois de janvier,
Mais en tout cas, au final, ils sont de retour en Ligue des Champions. Le club est sain parce que effectivement aussi, c'est très bien géré par les temps. Et là, on te dit, finalement, on va retrouver la Ligue des Champions avec une équipe qui est quand même extrêmement à nouveau décimée. C'est quand même extrêmement frustrant parce que ce club-là, pour le coup, il est sain. C'est pas comme Marseille ou d'autres clubs qui ont absolument besoin de courir après une certaine somme d'argent. Là, Lille va bien maintenant.
Après être décimé, attention, parce que moi, je fais
entre les départs, les fins de contrat les joueurs qui sont malheureusement transférés, perds quand même une ossature également.
Enfin, les départs, Chancel Bemba dans l'absolu, c'est un remplaçant. Thomas Meunier, il aurait pu rempiler, mais il y a une logique aussi d'âge.
Issa Mandi, il fait une très bonne saison, c'est un pilier de la défense.
Issa Mandi, je suis d'accord, mais ça peut être compensé par le fait que Ngoy va avoir une saison de plus. Il a fait une très belle Coupe du Monde pour moi. T'as le cas Alexandro qui a été impacté par les blessures, ouais. Qui peut être pour moi une recrue en 2026-2027.
Il faut qu'il retrouve son niveau.
Il faut qu'il retrouve son niveau. Mais ce que je veux dire par là, du côté du LOS, c'est que pour moi, je crois vraiment au recrutement interne avec des joueurs qui peuvent grandir. Par exemple, sur le secteur offensif, il y a des joueurs qui peuvent encore se révéler. Haraldsson, il est attendu notamment pour faire beaucoup mieux. Il y a Ejuma qui est arrivé l'hiver dernier. Tout ça, c'est des réalités qui font partie du LOSC 2026-2027. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, par rapport à l'équipe décimée, j'irai pas jusque là. Mais c'est une équipe qui a besoin de qualité. Ça, non, oui.
Ah, tu l'as dit. C'est vrai que il y a quand même un effectif de qualité, et notamment Haraldsson, qui pour moi doit être sa saison entre guillemets. Même si c'est vrai qu'il nous a montré les belles choses.
Le Chrysalide, à un moment donné, doit devenir papillon, là, mais très clairement. Ça fait beaucoup de temps qu'il est là.
Il nous a montré de très belles choses, mais peut-être pas assez de régularité. Mais maintenant, tu vas arriver sur une saison où est-ce que tu vas jouer tous les trois jours. On l'a vu, d'ailleurs, on a parlé l'année dernière où est-ce qu'ils ont explosé en vol au mois de janvier et en février. C'est pas anodin, c'est aussi parce que la profondeur, en tout cas, de l'effectif est quand même limitée. Et aujourd'hui, si tu perds des joueurs importants comme Boadi, comme Fernandez Pardo, ça risque d'être compliqué avec le LOSC. Alors, est-ce que ça sera une saison de transition? Je ne pense pas. Même si on le répète encore une fois, tu as quand même un nouveau projet. Tu étais sur une fin de cycle avec Genesio. Tu as un nouveau projet qui commence avec Ancelotti, avec Davide Ancelotti. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Après, n'oubliez pas, l'effectif actuel, là, au 10 août, au 12 août, ça sera sûrement pas celui qui sera acté début septembre. Donc j'imagine qu'il y aura encore des arrivées du côté du LOSC. En tout cas, s'il y a des joueurs en partance, et notamment Boadi, je suis convaincu que les temps vont arriver à compenser ces départs avec des arrivées intelligentes.
Lille qui retrouve la Ligue des Champions après une belle troisième place la saison passée. Dans quelques instants, on va parler de Lyon également, mais on va prendre la direction de Birmingham avec les championnats d'Europe d'athlétisme. On va retrouver Aurélien Tiersin et Teddy Tamgo. Bonsoir Aurélien, la pression monte, l'ambiance est en train de monter. Qu'est-ce qu'on va vivre dans quelques minutes?
Salut Karine, salut à tous. On va vivre la finale du 4x400 mètres mixte. Alors, c'est pas encore l'épreuve la plus royale du plateau, mais les Français ont une chance, notamment emmenée par Samuel Vessa, qui est le nouveau phénomène du 400, qui a battu le record de France vieux de quasi 20 ans de Leslie John dans quelques secondes. Alors que nos trois Françaises du 3000 mètres steeple se sont qualifiées en finale. Ça, ce sera jeudi, emmenée notamment par Alice Finot, la championne d'Europe en titre. Et puis, on rappelle que Jimmy Gressier, malheureusement, a terminé quatrième du 5000 mètres derrière Étienne Daguinos. En bronze, la première médaille pour le clan français, donc le 4x4 mixte, la finale dans quelques minutes.
Magnifique, merci beaucoup Aurélien, on revient te voir dans quelques instants en direct de Birmingham pour les championnats d'Europe, dans quelques instants évidemment. L'afterfoot continue sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit en direct, à tout de suite. On est ensemble sur RMC en direct jusqu'à minuit avec Elton Mokolo, avec Maxime Chano. Nous avions le bonheur d'avoir Stéphane Gilly, l'entraîneur d'Angers, l'invité de l'Afterfoot à 22h. Vous pouvez retrouver cette interview sur rmcsport.fr. On parlait de Lille qui pourrait voir certains de ses joueurs partir, en tout cas qui sont pistés par des gros clubs, Boadi et Fernandez Pardo. On accueille Dimitri au 32-16 sur RMC, supporter du LOSC. Bonsoir Dimitri.
Bonsoir Dimitri, comment ça va?
Nous, ça va très bien, et toi?
Ouais, ça va, super. Il fait moins chaud, ça va, ça fait du bien.
Comment ça, il fait moins chaud? Tu habites où?
Je suis à Paris, là, ça va, ça commence à tomber un peu, là.
Ah bon?
Aujourd'hui, il faisait chaud, quand même.
Il faisait très chaud.
Vous êtes sous clim, qu'est-ce que vous me dites, là?
Alors, on est sous clim, effectivement. Pendant le direct, mais on est la journée comme tout le monde, on vit, et moi, je trouve qu'il fait très chaud, alors je suis assez surprise.
Il faisait chaud aujourd'hui, je suis d'accord, mais là, il commence à faire bon, là.
Ah, 22h42, c'est ça?
Voilà, exactement.
22h42, c'est pas pareil que 17h.
Parce qu'effectivement, on est enfermé dans le studio pour notre plus grand plaisir, mais effectivement, vraiment aujourd'hui on a trouvé qu'il faisait un petit peu chaud, puis on rappelle qu'on retourne dans une canicule là à partir de demain, donc il fait très très chaud. Mais Dimitri, bon, on a fait un petit point météo, c'était sympa. Evelyne Delia, tu voulais nous parler de Lille également, je crois.
Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas tout écouté de ce que vous avez dit, mais de ce que j'ai compris. Donc, vous avez parlé de Boadi et de Pardo.
Tout à fait.
Boadi, apparemment, Boadi va partir. Ça, c'est pas une surprise. Honnêtement, à ce prix-là, je pense qu'il y a aucun club qui peut le garder.
Bah, c'est la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1, hormis Kylian Mbappé.
Bah oui. Enfin, j'ai envie de te dire. Et puis même, Boadi, 100 millions d'euros. Enfin, il faut vendre. Et après pour Pardo, moi je suis pas forcément de l'avis de beaucoup de supporters lillois. Moi je suis plutôt d'avis de le vendre en fait.
Dimitri, pardon, je te coupe parce qu'il y a le direct d'athlétisme. On te garde évidemment, mes priorités au direct avec Aurélien Tircin. On vit les derniers tours du 4x400 mixte, Aurélien.
Ouais, et on va croiser les doigts pour une remontada. Et alors peut-être, parce que pour l'instant Teddy, je suis avec Teddy Tamgo, on en est loin, Samuel Vessa notamment a été assez mauvais, on est 6ème, 7ème pour l'instant de cette finale du 4x4 mixte.
Mais ça va être assez compliqué pour aller chercher une médaille, même si Black Isabelle est assez rapide et justement a couru en dessous des 51 secondes cette année. Mais là vraiment l'écart est trop conséquent pour espérer un retour à la Floria Gay.
Eh oui, on est 7ème pour l'instant, hein. On peut espérer une Floria Gay, mais Isabelle Black, la championne de France, est très loin pour le moment. Ça va se jouer entre les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Norvège. Comme prévu, finalement, les Néerlandais, c'est une de leurs spécialités. Il n'y a pas Femke Bol. Les Français sont toujours classés en 7ème position. C'est le dernier virage. On est au Alexander Stadium de Birmingham et il y a un gros duel. Il y a de l'ambiance parce que c'est la Grande-Bretagne qui fait l'effort, mais la Norvège qui passe devant tout le monde avec notamment Jäger, Henriette Jäger. C'est une très solide course de 400 et la Norvège remporte le titre européen du 4x400 mixte devant la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. La 7ème place pour l'équipe de France. Heureusement qu'Étienne Daguinaud, c'est une médaille de bronze. Sinon, Montelli, on aura passé une bien mauvaise soirée avec Gressier, 4ème du 5000 mètres. Et donc, pas de finale, pas de médaille, pardon, pour le 4x400 mètres mixte et l'équipe de France.
Quelle déception, Aurélien. Je venais toujours, de voir, j'étais pleine d'espoir.
Ça fait 10 ans, Karine, que je mange ce genre de choses tous les soirs, tous les ans. Ah ouais. Je suis habitué.
Bon, que tu nous vends un petit peu des médailles à venir. On peut espérer quelque chose là bientôt.
Ce soir, non. Non,
ce soir, c'est cuit.
Non, parce qu'il reste le 100 mètres féminin, mais au moins maintenant on a fait les choses bien. Il n'y a plus de Français sur le sprint. Comme ça, c'est réglé. On n'est pas déçus.
Bon, bah écoute, on viendra te voir quand même pour la finale du 100 mètres femmes avec Teddy Tamgo et on espère que les médailles continueront à venir dans les jours prochains. Et on rappelle effectivement, tu l'as dit, que malheureusement Jim Gressier a terminé 4ème de sa finale. Merci messieurs, on se retrouve dans quelques minutes et on reprend Dimitri. Pardon Dimitri, hein, on t'a coupé, mais parce que Aurélien nous avait vendu un finish de folie. Moi j'étais là au taquet, j'espérais une remontada française.
2014.
Et puis
non, c'est pas ça.
Donc Dimitri, on était sur Fernandez.
Donc toi t'as dit Fernandez Pardo, tu le vends?
Non, alors moi je vous disais que si on arrive à avoir une offre à 50 millions d'euros, moi personnellement, hein, je vois pas un potentiel énorme à Fernandez Pardo. Donc je vois un peu sur le court terme. Et je me dis, surtout que l'année prochaine, s'il reste, ce serait pour jouer numéro 9. Moi personnellement, je l'aime pas trop numéro 9. Je sais pas si vous l'avez dit, mais honnêtement, si tu vends Boadi, même si tu vends pas Boadi, et l'étang l'a dit, on n'est pas obligé de vendre, on est un des seuls clubs encore en Europe qui gagne encore d'argent chaque année.
Oui, vous allez bien, vous êtes bien géré, vous êtes un club.
Tu es bien, mais quand t'as une offre comme ça, tu peux pas dire non.
Exactement,
c'est bien géré, c'est pas possible.
Mais c'est pas dans le dû au contexte de la Ligue 1, c'est dû au contexte de, effectivement, l'offre elle est irrefusable et donc du coup encore plus si tu vends Boadi, Pardo, je pense que s'il part, il part à une offre que tu peux pas refuser aussi, donc 50, 60, 70 millions. Apparemment il y a une info qui est sortie comme quoi il demandait 75 millions d'euros, c'est
ce qui pourrait être logique, hein, ce qui est très très cher, hein. C'est énorme, mais quand tu regardes l'index un petit peu des transferts sortants sur des joueurs de 20, 21 ans,
avec le marché de numéro 9 aujourd'hui.
Exactement, je l'avais dit, en plus international belge, c'est vrai qu'aux alentours de 50-60 millions d'euros, c'est pas fou, hein.
Pas fou, dans le sens où c'est pas beaucoup.
Non, je veux dire, je pense que c'est les prix qui vont être demandés, c'est les prix qui vont être proposés par les clubs.
Oui, c'est pas,
ça paraît complètement dingue, un jeune joueur comme ça de 21 ans qui a quand même pas énormément de saison au très haut niveau.
Il a
3 mois de compétition en tant que numéro 9.
Mais c'est surtout depuis que Genesio l'a replacé en tant que numéro 9. C'était un choix finalement intéressant et ça lui a permis justement d'avoir une valeur marchande qui a encore une fois augmenté. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que en tout cas, je pense pas que l'État prendrait le risque de se déstabiliser et de se déséquilibrer en vendant à la fois Boadi, qui est donc un milieu défensif, en tout cas un milieu, et Fernandes Pardo, qui est un peu le leader de l'attaque hein, actuellement. Alors, on va voir si Ancelotti va encore une fois le positionner en tant que numéro 9. Je pense que ça va être le cas.
A priori, c'est le plan, parce qu'en fait, t'as Igaman qui revient de blessure, t'as Giroud en troisième attaquant, et t'as normalement Pardo en titulaire avec Igaman quand il va revenir.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dimitri, moi, je suis pas dans une idée de le vendre. Moi, si Lille, encore une fois, qui a un exemple, notamment sur sa manière de construire un club dans le foot de très haut niveau, tu peux montrer les muscles aujourd'hui sur le marché des transferts. Alors oui, t'as Boadi, c'est une chose, mais par contre, il faudra Fernandes Pardo. Déjà, d'un point de vue individuel, pour moi, il n'a pas encore atteint son plafond. Il n'a que 3 mois de compétition, entre guillemets, en tant que numéro 9. Et moi, j'ai envie de le voir. Même pour lui, j'ai envie de le voir sur une saison entière. Et même pour Lille, à un moment donné, la braderie de Lille, c'est en septembre. C'est pas avant. Donc c'est pour ça que moi,
c'est très sympa, la braderie
de Lille. Oui, c'est très sympa, mais à un moment donné, t'as des objectifs. Parce que moi, Karen, on a parlé de Lille, mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que pour peu qu'ils aient quand même une stabilité, mais ils peuvent continuer de voir vers le haut du côté de la Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui, il y a un champ de possible qui est quand même très intéressant pour Lille. Et moi, je suis conscient, je suis sûr même qu'Olivier Létang, il l'a en tête. Et donc, dans ce contexte-là, un Fernandes Pardo, sauf offre irréfusable, eh ben, tu dis non, tu vas rester du côté du LOSC.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, surtout que l'effectif, il bouge pas tant que ça. Même si tu vends Boadi, t'as quasiment la même équipe que la saison passée. Moi, où je voulais mettre juste l'alerte avant que vous me coupiez, parce que je te sens, Karine, c'est plutôt sur le côté droit où tu vas faire la saison avec Mbappé, normalement titulaire, et derrière Noah et Djuma. Bon, avoir fait un pari, honnêtement, je suis pas convaincu de ça, mais écoutez, on verra.
Djuma, t'as mis quoi? T'as mis 6 millions d'euros, si je dis pas de bêtises.
Ah ouais, mais enfin bon, tu disais que Pardo, il avait 3 mois de compétition en tant que numéro 9. Lui, il a même pas une saison complète en Ligue 1, donc j'aurais te dire.
Après, tu sais très bien que c'est aussi la politique sportive de Lille, que moi je continue de le dire. C'est la référence sur ces 10 dernières années dans sa capacité justement à exposer et faire exploser de jeunes joueurs qui sont capables de grandir en faisant de bonnes choses, mais aussi en faisant des erreurs. Et c'est comme ça qu'ils grandissent. Je pense que l'idée derrière la tête, c'est de pouvoir leur donner du temps de jeu en leur disant que voilà, vous avez la Ligue 1, vous avez la Ligue des Champions, vous avez la Coupe de France pour vous montrer, et qu'il n'y aura pas, entre guillemets, un joueur un peu plus expérimenté qui va arriver.
Dimitri, par rapport à cette saison, qui est une saison où il y a quand même une inconnue, bien évidemment, David Ancelotti, on ne sait pas ce qu'il vaut comme numéro 1. Est-ce que tu es assez confiant avec ce retour en Ligue des Champions, ou est-ce que tu es inquiet?
Non, je suis pas inquiet. En fait, Eton l'a un peu dit. En fait, quand tu regardes nos adversaires directs, Rennes, Monaco, Lyon, Marseille, ils ont tous leurs problèmes. En fait, soit ils ont des problèmes financiers, soit ils ont des problèmes d'effectifs, soit ils ont viré leur directeur sportif. Donc en fait, il y a aucune équipe qui est vraiment prête. Et en fait, si tu regardes un petit peu le panel des 5-6 équipes, une des équipes les plus prêtes et celle qui change le moins, hormis le coach, bah c'est Lille. Donc j'ai envie de dire, t'as pas besoin d'être trop inquiet en soi. Effectivement, la seule interrogation, si je pourrais dire, c'est le coach. Mais bon, après, j'ai envie de te dire.
C'est une grosse interrogation quand même. Hein.
C'est une grosse interrogation. C'est une grosse interrogation. Après, pour l'instant, les matchs amicaux, il y a rien d'alarmant. Après, c'est des matchs amicaux. Hein. Tu peux pas t'appuyer dessus. Donc on verra bien. On peut pas trop le juger. Il a pas fait une saison catastrophique à Botafogo. C'était pas non plus énorme. C'était pas nul. Donc voilà, on verra bien.
Je suis totalement d'accord avec Dimitri. Karine, moi, s'il y avait pas l'inconnu coach, je mettrais un gros billet sur Lille deuxième du championnat, par exemple.
Bah oui, mais bon, l'inconnu coach, c'est quand même quelque chose de important.
Ah oui,
on a hâte de voir ce que ça va donner.
Je suis d'accord avec toi pour deux raisons, parce que tu as aussi les autres clubs de Ligue 1, notamment Monaco, Marseille, qui derrière sont obligés de dégraisser. Donc je pense que la concurrence sera peut-être moins intense que l'année dernière. Donc je suis d'accord avec Elton. Si Lille devait garder leurs joueurs, s'ils devaient uniquement enregistrer le départ de Boadi et peut-être garder Fernandes Pardo, je les vois bien en haut du classement, à condition évidemment que David Ancelotti, le nouvel entraîneur, puisse se mettre au diapason et puisse s'adapter très rapidement à la Ligue 1.
En tout cas, ça sera l'une des attractions de cette Ligue 1, un nouvel entraîneur, on l'a dit, David Ancelotti. On rappelle que 12 changements de coach sur les 16 clubs qui étaient déjà présents en Ligue 1 la saison passée, donc il y a eu vraiment beaucoup de changements. Merci Dimitri, on te souhaite une très belle saison.
Bonne soirée.
Le premier match, ça sera sur la pelouse d'Angers, le dimanche 23 août. On va tout de suite retourner à Birmingham. Aurélien Tirsin et Teddy Tamgo nous attendent. La finale du 100 mètres femmes va partir dans quelques secondes.
C'est toujours le clou du spectacle, les 100 mètres à la fin du programme. Alors, il n'y a pas de Français, mais je vais faire kiffer Maxime. Il y a Patricia van der Wecken, qui derrière lui est peut-être la luxembourgeoise la plus connue dans le monde. Je ne sais pas. En tout cas, elle a ses chances. Elle a ses chances, Patricia van der Wecken, au couloir numéro 5. aux côtés d'Eva Svoboda et Amy Hunt, la Britannique qui est la favorite peut-être. Teddy, il y a Dina Asher-Smith qui est la championne d'Europe en titre, un peu vieillissante. En deux mots, Amy Hunt, la favorite pour toi?
Complètement. Je mise d'ailleurs pour une victoire de Hunt, donc d'Amy. Donc, je serais assez étonné qu'elle perde, puisque depuis déjà un an, elle a passé un cap.
Il y a Zainab Dosso également, l'Italienne, qui a couru vite cette année. La ligne de départ est complétée par la Belge Delphine Kanza et la Suisse Salomé Cora. Les sprinteuses, les 8, sont alignées évidemment sur la piste bleue de Birmingham. Le stade sautait. Il n'y a pas une énorme affluence. Allez, c'est parti ce soir pour les Britanniques. Amy Hunt, c'est compliqué. Il y a Eva Svoboda, la Polonaise qui part, et surtout la Suisse Ditezio, frais. Mais Amy Hunt qui refait son retard et qui va devenir championne d'Europe à domicile. Bravo Teddy, les deux mains en l'air, puisque Amy Hunt va remporter son premier titre européen. Il y aura ensuite une petite photo finish pour savoir qui est en argent. A priori, Eva Svoboda, la Polonaise, Géraldine Ditizio Frey, la Suissesse, troisième, 11 secondes 0-0 pour Amy Hunt. Bon, on est assez loin d'un record du monde quand même, hein. Mais c'est l'Angleterre, c'est Amy Hunt qui est championne d'Europe, Teddy.
C'est super de gagner chez soi en tout cas. Elle a tenu son statut tout simplement. L'année dernière, elle a été médaillée au championnat du monde sur 200 mètres. Sur 100 mètres, elle a pas mal progressé. Elle est arrivée avec la meilleure performance, n'est-ce pas, des engagés pour cette finale. Et voilà, elle a tenu son rang et parfait.
Ah, par contre, la photo finish, elle est défavorable à Ditizio Frey. Géraldine, la Suissesse qui avait la meilleure perf européenne de la saison. C'est Delphine Nkanza qui a du mal à y croire aussi. Mais record personnel en 11-06. La Belge est en bronze sur ce 100 mètres des championnats d'Europe de Birmingham. La Luxembourgeoise Patricia van der Wecken termine 6e. Oh, voilà, ça nous rapproche un petit peu français et luxembourgeois.
Quoi, pour la Luxembourgeoise,
je suis désolé.
Attends, Aurélien nous l'a vendu comme une Luxembourgeoise qui était potentiellement médaillable, non, avant la
Coupe. Ah bah totalement.
Ah bah voilà.
J'ai cherché à défendre Aurélien. J'ai cherché à défendre.
Donc là, on est sur
parce que vous connaissez le sport. Merci.
On est sur un raté de la Luxembourgeoise. On est d'accord.
Sixième en finale, c'est pas mal du tout. Bravo Luxembourg. Bah oui, on en est très fiers.
Karine, est-ce que t'es la sixième européenne la plus rapide? Je ne crois pas. Patricia van der Wecken, elle l'est. Ça c'est sûr.
Christine Aron. Alors là, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Non, mais bon, j'espérais, tu vois, que notre luxembourgeoise fasse une perf, parce que tu me l'avais vendu comme ça, j'y ai cru. Ouais, puis
sixième,
finalement,
c'est pas mal.
Non,
c'est pas...
En vrai, c'était pour faire kiffer Maxime, j'y croyais pas beaucoup, mais bon, ouais, on est comme ça, on est ensemble.
Bah, c'est une victoire à domicile. Ouais. Une Anglaise qui gagne devant son public, c'est toujours bien.
Ça aurait été sympa d'avoir une luxembourgeoise championne, non?
Bah bon. Oui, moi j'étais pas contre, mais j'ai l'impression qu'elle s'est ratée. Sixième, on peut pas dire que ce soit une grosse perf.
Sixième, c'est beaucoup plus proche de la huitième place que de la première.
Pour un pays comme le Luxembourg, sixième en finale, c'est presque.
Ah bah oui,
c'est championnat d'Europe, on n'est pas JO.
C'était la même chose quand on joue au ballon. Écoute, si on finissait 5 ou 6e de notre groupe, c'était presque une victoire.
Oh là là, que d'ambition, dis donc, ça fait rêver tout ça. Aurélien, les médailles arrivent quand là? Parce qu'aujourd'hui, on a une petite médaille.
Mais on en a une.
Oui, je sais.
Bah voilà, bah on en a une. Etienne Daguinaux en bronze sur le 5000 mètres. Ouais, c'est vrai, c'est très gourmand. Alors demain, demain, il y a la finale du marteau homme avec Yann Chossinan. Ce sera à partir de 20h10. On aura le 100 mètres haies chez les filles avec Sacha Alessandrini et Laetitia Bapté qui ont les deux une chance de monter sur le podium. Mais je te vois arriver, elles vont probablement se cracher, c'est ce que tu vas me dire. Mais on y croit toujours un petit peu. Et on a Samuel Vessa qui sera en demi-finale du 400 mètres homme. Mais il nous a un petit peu déçus. T'es dit simplement en un mot, Samuel Vessa qui est le recordman de France désormais et qui s'est un petit peu manqué là pour le relais 4x4 mixte.
Ouais, c'est sûr qu'il s'est complètement, fait larguer aujourd'hui là sur cette course. J'étais assez étonné justement de son comportement. Maintenant, il faut savoir qu'il est, aux États-Unis, il est en université américaine. La saison a pu être assez longue pour lui. Ouais. Et puis après, bon, j'attendrai quand même les demi-finales du 400 mètres avant de soulever en fait le cas des championnats de France à Albi.
Bon, on devrait pas être submergé par les médailles de toute façon, Karine. On va quand même en espérer une dizaine. En vrai, sous les 10 médailles, ce serait quand même un échec pour l'équipe de France d'athlétisme, parce que autant au niveau mondial, bon bah on sait qu'on en aura une, voire deux quand ça veut bien sourire, comme avec Jimmy Gressier à Tokyo en septembre dernier. Mais en Europe, normalement, on devrait être aux alentours de la dizaine, à minima. Et pour l'instant, c'est vrai que la première journée est un petit peu décevante.
Oui, c'est vrai qu'il ne fallait pas avoir trop faim aujourd'hui. Une seule médaille, une médaille de bronze. Merci beaucoup, messieurs. Je vous libère.
À demain. Ciao.
À demain. Belle soirée à vous, Aurélien et Teddy. Mais moi, je suis toujours orpheline de Marie-Josée Pérec, de Stéphane Diagana, de Muriel Lurki.
Faut vivre dans ton temps.
Dibala, Marc Raquil.
Là, oui.
Muriel Lurki.
Bruno Lavillenie. Ouais. Ça a pas l'air de te passionner.
Bah non, je pense au à l'athlétisme luxembourgeois qui est visiblement ce soir est en berne avec cette sixième place. Mais non, on n'a pas eu la chance d'avoir autant de champions que vous, nous, du côté du Luxembourg.
Ouais, c'est vrai qu'on a bien mangé il y a quelques années.
Ouais, enfin, le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on mange plus, hein.
Oui. Mais on s'est gavé quand même.
Moi, je suis toujours orpheline de Marie-Josée Pérec.
Ah ouais,
ça date de 92-96.
Ça fait 30 ans, ouais, 30 ans.
C'est l'époque, Karine.
Et alors, ça reste la queen.
Yonis Barber, Saint-Denis, 2003.
Oui, mais bon, quand même, les trois médailles d'or JO, ça reste au-dessus, tu vois.
Ah oui. Là, c'est la seule qui a fait doubler 200-400.
Magnifique. Moi, je suis orpheline de tout ça, voilà. Mais on espère que les médailles vont quand même arriver. Aurélien nous a promis quelques médailles à venir. On rappelle donc que les championnats d'Europe Art Birmingham sont à suivre sur rmcsport.fr. On souhaite bonne chance à nos athlètes. Dans quelques instants, messieurs, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, demain, c'est un jour important pour l'avenir européen de l'OL, opposé au Sparta Prague. On parlera également des changements de gardien en Ligue 1. En tout cas, il y a un turnover possible. Toutes les informations également à J-2 de PSG Aston Villa. Ça sera la finale de la Super Coupe. On est ensemble jusqu'à minuit en direct. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.